Alors, je suis avec le docteur Yves Boigné-Vigé. Voyons un peu ces changements de dernière heure, parce qu'on les a appris à la fin de la journée hier, puisque le bilan hier, en début d'après-midi, était de 125 cas. Ça n'avait pas bougé. Donc, et en fin de journée, ça en est ajouté 10. Docteur Boigné-Vigé, bonjour.
Oui, bonjour.
Alors, c'est encore un bug informatique?
Ben, en fait, c'est pas tant un bug qu'une indisponibilité des systèmes dans la journée de dimanche parce qu'ils ont refait beaucoup d'éléments sur la programmation, ce qui n'a pas permis de saisir les données au moment où il fallait. Ce qui fait que le bilan, en réalité, à la fin de la journée de dimanche, là, à 16h30, c'était vraiment 135 cas. Sauf que les 10 cas qui s'ajoutaient n'avaient pas pu être saisis à temps pour que ça se reflète dans les données nationales.
Donc, on les a.
On trouve encore 125 ce matin là, dans les sites.
Oui, et bien là, il y en a qui ont ajusté, comme chez nous, on ajuste. Donc, on a 135 cas d'hier, on va le dire comme ça, mais de dimanche, mais qui se sont ajoutés 10 nouveaux cas d'hier. D'où proviennent ces cas?
Ben, c'est principalement les suites de l'éclosion qui avait commencé vendredi là, dans les magasins IGA. Et puis, encore des résidents du manoir du Havre. Et puis, une autre personne qui était un travailleur de la santé là, dans le CIS. Mais donc, c'est 10 nouveaux cas qui sont reliés à l'ensemble de ce qu'on avait déjà finalement comme grappe qu'on est en train de suivre.
Dans la baie des Chaleurs. Maintenant, lorsqu'on regarde du côté là, des IGA, parce qu'il y en a deux, Passepébiac, New Richmond, on est à 14 personnes qui ont contracté le virus. Est-ce que là, on peut parler d'un nouveau foyer à ce moment-là?
On le considère comme un nouveau foyer, comme une grappe, effectivement, qu'on suit plus attentivement.
Et pourquoi vous la suivez plus attentivement maintenant? Expliquez-nous. Il y a des liens avec les autres grappes?
Ben, il pourrait y en avoir. C'est pas la raison pour laquelle on la suit plus attentivement. C'est que c'est une grappe qui apparaît dans un milieu où il y a beaucoup d'interactions avec le public. Donc, on a déjà averti les gens qui fréquentaient les GA de surveiller leurs symptômes. Là. Jusqu'ici, tout ce qu'on a eu comme résultat, ce sont chez des employés, mais on s'inquiète de savoir s'il va y en avoir dans la population ou pas. Bien que le risque soit faible, c'est des choses qui peuvent arriver. Puis,
oui, parce qu'il faudra.
C'est clair que ça exige une attention plus soutenue dans ce contexte-là.
Est-ce que ça, on peut dire que c'est de la transmission communautaire, là, les cas de IGA?
Ce serait de la transmission communautaire si on n'arrive pas à identifier clairement l'origine de la première infection, là, ce qu'on appelle le cas index de la grappe. Là. Mm-hmm. Si le cas index de la grappe, on le rattache à une autre grappe, mais c'est pas vraiment de la transmission communautaire.
Ça a été souligné durant la semaine dernière. Est-ce qu'on en a eu de la transmission communautaire finalement jusqu'à aujourd'hui?
Oui, au cours de la semaine dernière, on a eu quelques cas, là, comme je l'avais déjà mentionné, oui. Pour lesquels on n'a pas retracé avec clarté un lien à une autre grappe. Donc, il pourrait y avoir de la transmission communautaire sporadique qui commence tranquillement.
OK. Maintenant, ça c'est beau, oui. On parle beaucoup, évidemment, de deux commerces d'alimentation. C'est ce qui est particulier dans ces cas-là parce que beaucoup de personnes vont voyager. Mais au niveau de l'alimentation, et lorsqu'on dit qu'on va désinfecter un magasin comme ça, est-ce que c'est possible d'arriver à complètement éliminer donc cette bactérie ou ce virus-là qui pourrait être là installé, je ne sais pas, là? Mais il y a plusieurs endroits où il pourrait être installé pour se propager.
Oui, mais le virus, on le sait, il est relativement sensible à tous les désinfectants habituels qu'on a même dans notre maison. Là. Okay. Donc, ce n'est pas un virus qui est très résistant au nettoyage. Donc, un bon nettoyage, normalement, devrait nous en débarrasser. Puis, il ne vit pas très longtemps sur les surfaces sèches, là. En moyenne, 3 heures, peut-être plus de temps en temps. On peut en trouver qui sont encore vivants, mais un peu faibles au bout de 24 heures, mais c'est rare. Alors, c'est plus dans les surfaces humides que rester plus longtemps. Donc, généralement, un bon nettoyage, et puis c'est un peu la procédure qui est proposée dans les magasins, là, les gens nettoient au cours de la journée plusieurs fois toutes les surfaces. Donc,
On peut y
il est
arriver.
très, très, très peu, c'est ça, il est très, très peu probable que, puis en fait, ça n'a pas été vraiment décrit, là. Quand on parle de la transmission, c'est vraiment de personne à personne que ça se passe. C'est très rare qu'on entend parler qu'une personne aurait pu toucher une surface et puis qu'elle a été infectée. Donc, tout en étant très prudent et en nettoyant continuellement, je pense qu'on arrive à bien nettoyer.
J'aimerais qu'on parle un petit peu de la situation au niveau national. Depuis les derniers jours, depuis vendredi passé, on parlait à un moment donné de courbe qui aplatit, mais les chiffres sont quand même assez énormes encore. On a l'impression que ça ne va pas très bien, là, surtout dans le secteur de Montréal et aux alentours, là. Est-ce que, on peut dire qu'on n'arrive pas à faire baisser cette courbe-là ou aux chiffres qu'on voudrait?
En fait, il y a deux épidémies qui ont cours actuellement au Québec. Dans le fond, il y a une épidémie dans les centres d'hébergement pour personnes âgées. C'est là que c'est difficile à contrôler, que les besoins sont très grands, puis qu'on peut avoir des fois l'impression que c'est un peu chaotique. Mais en réalité, l'autre épidémie, celle qui est dans la population, elle est relativement beaucoup moins sévère que celle qu'on attendait. Donc, c'est pour ça qu'au global, ça peut avoir l'air beaucoup, mais en réalité, la courbe des nouveaux cas que l'on suit, qui est plus de celle qui nous intéresse, c'est celle dans la population, là, pour voir comment les choses vont aller. Ben, elle semble bien suivre les attentes, là, dans le sens où elle semble s'être vraiment aplatie et on peut penser qu'on est dans une phase où on va tranquillement pouvoir penser au rétablissement, à la réouverture. Pour les CHSLD, bien, des moyens énormes et extraordinaires sont mis en place. Alors, on s'attend aussi à pouvoir régler le problème, là. Mais du côté de quand on parle d'aplatissement de la courbe, puis on le voit ici dans notre région depuis une semaine et demie, là, en gros, là, c'est rare que on va dépasser 10. On a eu des journées à zéro. Donc, en moyenne, on est à peu près stable autour de 6 à 7 cas par jour. Donc, on est dans un plateau. Et ce à quoi il faut réfléchir, c'est comment on va être capable de conserver ce plateau-là tout en réouvrant certains secteurs de l'économie. C'est notre enjeu actuellement, toute notre réflexion est portée là-dessus. Comment on ouvre tranquillement de nouveaux secteurs économiques tout en suivant la courbe pour ne pas qu'elle reparte à monter. Si elle reste sur un plateau, c'est acceptable parce qu'on est capable de gérer les cas qui sont générés chaque jour. On est capable de les suivre, on est capable de les soigner s'ils ont besoin de soins. Alors, si on ne perd pas le contrôle de cette courbe-là, on est capable de revenir tranquillement à une vie de plus en plus normale. Alors, c'est là-dedans qu'on entre actuellement.
Est-ce que la vie normale pourrait arriver plus rapidement chez nous, si ça va comme ça comparé à d'autres régions? Est-ce qu'on pourrait aller par secteur ou par région pour réouvrir davantage de commerces ou d'activités économiques?
Mais ça fait partie des décisions. C'est pas nous qui décidons, c'est vraiment le national. Mais le national a ça dans sa planche à décision, là. Est-ce qu'on ouvre l'économie plus rapidement dans certaines régions qui ont été moins touchées? Puis on regarde qu'est-ce que ça donne. C'est une des hypothèses qui est envisagée.
Donc, vous, est-ce qu'on vous conseille là-dessus?
Oui, les directeurs de santé publique se réunissent tous les jours et ça fait partie de nos réflexions depuis quelques jours.
Donc, est-ce que c'est quelque chose que vous avez proposé d'ouvrir?
Ben, c'est quelque chose que l'ensemble des directeurs qui réfléchissent à la question ont proposé. Ça fait partie de la réflexion. C'est une des hypothèses qui a été avancée.
OK. Bon, les fameux points de contrôle qu'on connaît, est-ce que c'est là pour longtemps d'après vous? Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait durer plusieurs mois encore, parce que là, il y a une pression qui se fait aussi pour la saison touristique. Il y a d'autres régions qui voudraient pas vraiment voir ouvrir ces points de contrôle, d'autres oui. Je ne sais pas comment est-ce que, avec vos collègues aussi des différentes directions régionales, comment ça se passe autour de la table?
Bien, la première chose qu'on doit se dire, c'est que ce sont des mesures qui ont été très efficaces. On a vraiment vu la différence à partir du moment où on a mis les points de contrôle pour ce qui est de la circulation du virus. Donc, les points de contrôle sont une mesure efficace. Maintenant, effectivement, l'idée, c'est de revenir le plus rapidement possible à la vie normale. Donc, ces points de contrôle-là ne faisaient pas partie de notre vie normale. Donc, idéalement, il faudrait les retirer à un moment donné. Mais on n'est pas obligé de les retirer. C'est pas du tout ou rien. On n'est pas obligé de les retirer complètement tout d'un coup. Par exemple, actuellement, les points de contrôle ne permettent qu'aux gens qui ont une résidence principale de revenir dans la région puis pour y rester. On pourrait très bien, à un moment donné, de penser que les gens qui ont aussi une résidence secondaire puissent revenir. Alors, une fois qu'on a ouvert une de ces conditions-là, ce qui est important pour nous, c'est de vérifier comment va se comporter l'épidémie. Si la courbe épidémique ne bouge pas trop, à ce moment-là, ça veut dire que c'est une mesure qu'on peut maintenir. Puis après ça, on peut en rouvrir une autre. Alors, ça sera à jauger. Là. C'est exactement le même raisonnement que pour l'ouverture de certains secteurs économiques. Il faut vraiment regarder quel effet ça a sur l'épidémie. Si on est capable de rester dans une épidémie qui est relativement bien contrôlée, ben on ouvre davantage. Mm-hmm. Et si jamais ça veut vouloir monter, ben là, on va être obligé de restreindre, de revenir en arrière ou tout simplement ne plus ouvrir rien tant qu'on ne sera pas revenu au plateau qu'on avait avant.
Bon, et dans un mois, ben là, c'est juin, saison touristique peut commencer. Habituellement, ça commence tranquillement. Est-ce que vous pensez qu'on devrait ouvrir les points de contrôle à partir de ce moment-là?
Ça va dépendre tu vois, on a ouvert là à la construction domiciliaire, plus les aménagements paysagers, plus les ateliers mécaniques. Mm-hmm. L'effet de cette ouverture-là, on va le voir dans 2 semaines. Alors, je pense qu'il faut être relativement prudent, regarder qu'est-ce qui se passe à chaque fois qu'on ouvre quelque chose. Parce que si on ouvre plusieurs choses en même temps, puis là, ça se met à monter en flèche, l'épidémie, on ne sera pas plus avancé, on ne saura pas quoi fermer ou on ne saura pas quoi attendre pour ouvrir autre chose. Alors, mm-hmm. Il vaut mieux ouvrir tranquillement un certain nombre de choses, observer la tendance sur l'épidémie. Si ça se maintient, on peut ouvrir davantage. Ça va être la même chose pour la saison touristique. J'imagine qu'on n'ouvrira pas tout d'un coup toutes les activités touristiques auxquelles on est habitué. Peut-être qu'on va ouvrir des choses qui permettent aux gens de venir sans être trop en contact avec l'ensemble de la communauté. Je ne sais pas, moi, du plus le camping, des choses comme ça, moins d'activités. C'est toutes des choses qui doivent être décidées avec la communauté. Alors donc, le mécanisme d'ouverture aussi va impliquer beaucoup de consultations puis de discussions dans les communautés, dans les acteurs sociaux. C'est pas la santé publique qui va toujours décider. La santé publique, elle va vérifier quel est l'effet de l'ouverture sur l'épidémie. Puis va sonner l'alarme si on a tendance à vouloir remonter puis avoir une épidémie dont on risque de perdre le contrôle. Ou si au contraire, les choses vont bien, donc on peut continuer à ouvrir. Ça va être notre rôle, c'est en plus un rôle de vigie là, sur l'épidémie. Les décisions pour les ouvertures, ça relève de beaucoup d'autres acteurs que la santé publique.
Donc, ça pourrait prendre combien de temps avant d'être ouvert complètement pour vous? Ça va s'échelonner sur quoi, un an? Avez-vous une idée?
C'est très difficile à prévoir, il n'y a personne qui le sait. Mais faut s'attendre à plus long que moins long. Il faut vraiment s'attendre à ce que, si on compte tenu nos capacités de soins, si on veut être dans une situation comme on est actuellement, là où c'est relativement confortable, on a 10 cas par jour, mettons qu'on irait jusqu'à 10 cas par jour, 10-12 cas, On est capable de soigner les gens qui tombent malades un peu plus gravement. Alors, à ce moment-là, si on reste dans ces eaux-là, on va être capable de prendre le temps de revenir à la normale. Mais ça veut dire que ce qu'il faut voir, c'est que les gens qui tombent malades développent une immunité. Mais pour que ça fonctionne, l'immunité pour tout le monde, il faut avoir atteint entre 60 et 75 %. On en parlait la semaine passée.
Oui, donc c'est là.
Au rythme de 10 à 15 malades par jour, ça peut prendre 2 ans, effectivement, là, à atteindre ces taux-là. Alors, on espère avoir un vaccin avant, puis qui va nous permettre, à ce moment-là, d'ouvrir complètement.
Mais donc, on en a pour plusieurs mois là, avant d'ouvrir complètement. Là. C'est pas pour juin, juillet.
Oui,
là.
Oui. Non, faut pas s'imaginer qu'on revient à la normale cet été, je pense.
Docteur Yves Bonnier-Vigier, merci pour cet entretien. À bientôt.
Merci. Au revoir.